encore sur la relation. Pouvez-vous, pourriez-vous rapprocher la distinction que fait saint Thomas, relation selon le dire et selon l'être, et la distinction de relation de raison et relation réelle? Oui, je comprends. Secundum dici, secundum esse. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Cette distinction-là est prise dans Aristote, dans les catégories, où Aristote fait la distinction secundum dici et secundum esse. Pourquoi ? Parce qu'on est dans les catégories. Donc, c'est le legein, l'attribution, la relation selon l'attribution. C'est la relation qu'on voit dans le langage. Puis on monte secundum esse, on regarde sa réalité. Vous voyez ? Alors, c'est très vrai qu'il y a un lien très fort entre les deux. Dans le langage, la relation, elle est tout le temps présente. Pierre est intelligent. L'attribution de intelligent à Pierre implique une relation. L'universel est capable d'être attribué. C'est le langage. Étudiez le langage, vous êtes tout le temps dans un tissu de relations. Quand Merleau-Ponty définit l'être un tissu de relations, en réalité, c'est le langage. Le langage est un tissu de relations. Pierre est intelligent, Pierre est bon, Dieu est bon, et ainsi de suite. Dès qu'il y a attribution, il y a relation. C'est qu'on devait essayer, c'est essayer de comprendre l'être du relatif. Qu'est-ce qu'il est ? Alors, c'est qu'on devait essayer. Vous voyez, c'est très simple cette distinction-là. Saint Thomas va regarder, lui, la relation de raison, celle que l'intelligence fait. L'universel est une relation de raison, à la différence de l'amitié qui est une relation réelle, ce que nous avions vu. L'universel, c'est ce qui est au point de départ de toutes les attributions. Quelque chose est attribué à un autre parce qu'il est universel. Unum ex multis, l'un qui vient du multiple, unum ad multa, c'est l'attribution. L'universel provient du multiple, l'universel est attribué au multiple. Donc le problème de l'attribution, qui est la relation secundum dici, implique l'universel. Puisque quelque chose ne serait pas attribué à un autre s'il n'était pas universel. Donc, en analysant la relation secundum dici, je découvre l'universel. C'est l'universel qui permet de comprendre ce que c'est que cette relation secundum dici. Donc, vous voyez le lien qui existe entre ces deux distinctions. Je vais les écrire au tableau pour que vous les voyez mieux. Selon le dire, c'est qu'on donne dit. Selon ce qui est dit. Selon le dire ou ce qui est dit. C'est l'attribution. Selon l'attribution, si vous voulez. Toute attribution est une relation. Pierre est intelligent. Relation selon l'attribution. blessé. C'est classique, ça. C'est une chose Aristote. C'est les catégories. Bon, je crois que vous pouvez facilement comprendre ces deux moments des catégories d'Aristote où il regarde le relatif en analysant le langage, puis il réfléchit et il ne fait ça que pour la relation. Il réfléchit pour savoir quel est l'être de la relation. Les deux moments. Saint Thomas me donne relation de raison, relation réelle. Il est évident que la relation secundo messe, c'est la relation réelle. Et la relation d'attribution, c'est une relation de raison. Pourquoi ? Relation de raison, l'universel. Or, l'universel, c'est ce qui est attribuable. Donc, vous voyez, c'est deux manières différentes de distinguer. Mais ça se recoupe. La distinction secundum dici et secundum esse provient des catégories. Parce qu'on est dans l'ordre de l'attribution. Catégorie veut dire l'attribution. Je vois que la relation a quelque chose de très particulier par rapport à toutes les autres. Attribution, c'est que son être apparaît comme étant simplement ce qui fait l'attribution. Puisque toute attribution est relative. Or, il y a la qualité qui est attribuée. Quand j'attribue intelligent à Pierre, l'attribution est quelque chose de relatif. Mais l'intelligence n'est pas quelque chose de relatif. C'est une qualité. Ce que nous allons voir maintenant. Vous voyez ? Donc, quand il s'agit des autres attributs, on distingue très nettement ce qui est attribué et l'attribution. Quand il s'agit du relatif, il paraît uniquement l'attribution. C'est lui qui fait l'attribution. D'où la nécessité de réfléchir le relatif secundum esse. Parce qu'il semble être uniquement ce qui est l'attribution elle-même. Vous voyez ? C'est pour ça que par rapport à la relation, Aristote fait cette distinction secundum dici, secundum esse. Saint Thomas, dans une perspective toute différente de théologien, essaiera de distinguer la relation de raison et la relation réelle. La relation réelle implique une forme particulière existante. C'est qu'on nous sait. Et la relation pure, c'est l'attribution. C'est l'universel. Donc, relation raison. Ça se recoupe. Est-ce que vous voyez ça un peu? Sur la difficulté du relatif. Je n'insiste pas plus. S'il y a des difficultés là-dessus, vous les noterez encore. On avait commencé la qualité. C'est un aspect extrêmement intéressant. Qualité, quantité. Il faudrait presque les voir en même temps. Parce que de fait, dans notre vie, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Il y a des gens qui ont le sens de la qualité, il y a des gens qui ont le sens de la quantité. Le commerce a le sens de la quantité. L'économie a le sens de la quantité. Les artistes ont le sens de la qualité. Alors faites des artistes des commerçants, ça réussira très bien. Faites des commerçants des artistes, ce sera quelque chose de fameux. On est doué du côté de la qualité, on est doué du côté de la quantité. À droite, la porté vers ça. Notre monde d'aujourd'hui est porté vers la quantité. Les médias sont portés vers la quantité. Les artistes aiment de sauvegarder la qualité. Bon, je dis ça. On va essayer maintenant d'étudier qu'est-ce que c'est que la qualité. Qu'est-ce que c'est que la quantité. Et c'est quelque chose de la réalité, la qualité. Et la quantité, c'est quelque chose d'une réalité physique. La qualité a cet immense avantage, c'est qu'elle unit le monde physique et le monde spirituel. Il y a des qualités physiques, il y a des qualités spirituelles. La quantité, elle est absente du monde spirituel. Mais comme notre langage part des réalités physiques, notre langage sera toujours un peu lié au domaine quantitatif. Et on projettera quelque chose de quantitatif, même pour les choses spirituelles. On verra ça. Et c'est très curieux. On pourra parler d'une extension, d'une vertu, d'une influence, oui, qui transpose dans le domaine qualitatif quelque chose de quantitatif. Alors, essayons d'abord de regarder qu'est-ce que c'est que la qualité. Il faudrait, ici, et c'est une manière très simple, et peut-être la plus facile pour nous, d'aborder la philosophie. J'hésite toujours. D'aborder le point de vue de l'être par la qualité. Certains philosophes, Platon, Heidegger, je crois que ce sont des philosophes de la qualité. Et je crois qu'ils identifient l'être et la qualité. Pour eux, l'être, c'est la qualité. C'est très, très étonnant. Et ils ne dépassent pas la qualité. C'est déjà quelque chose, hein. C'est déjà quelque chose d'avoir une philosophie de la qualité. Parce que beaucoup d'autres philosophes ne dépassent pas la quantité. Est-ce que Marx, Karl Marx, notre cher Karl Marx, hein, Lénine, est-ce qu'ils dépassent la quantité dans leur philosophie? Vous voyez, si on pouvait jauger la pénétration d'une intelligence, on peut le faire. Parce que quand on dialogue avec quelqu'un, on voit bien jusqu'où il atteint, et après, il n'atteint plus rien. Il n'y a plus de réponse intelligente. Les réponses intelligentes vont jusqu'à un certain point, puis après, plus rien du tout. Parler à un commerçant de qualité, là. Ah oui, dans la mesure où ça se vend. Mais autrement, aucun sens. Alors, c'est ça qui est très intéressant, ce serait très intéressant à faire, ce serait très, très Ross, vous voyez, d'avoir le palmarès des philosophes. Celui-là ne dépasse pas la quantité. Celui-là ne dépasse pas la qualité. Celui-là reste dans le relatif. Celui-là atteint la substance. Pas beaucoup. Celui-là ne dépasse pas la substance. Celui-là atteint l'acte. On peut très bien faire ça. Et c'est vrai. Alors ça, c'est un jugement de valeur qu'on porte sur les différents philosophes. Platon, c'est le philosophe de la qualité. C'est pour ça qu'il est bon de lire un peu de Platon. C'est facile, c'est reposant, vous êtes un peu fatigué, lisez du Platon. Là, vous ne perdez pas votre temps, il faut connaître Platon. Il faut au moins avoir lu pendant ses études philosophiques deux ou trois dialogues de Platon. Vous voyez, un dialogue du début, un petit dialogue sur la l'amitié. C'est très beau. C'est un homme de l'amitié, Platon. Les hommes de l'amitié, c'est pas nécessairement des gens de la substance. Ils peuvent rester dans la qualité. Qu'est-ce qu'on demande à un ami? D'être un peu qualitatif. Pas peser trop lourd. D'avoir le sens de la qualité. Alors, un petit dialogue du début sur les vertus. Les vertus sont des qualités. Platon a le sens de la vertu, il a le sens de l'amitié. Un dialogue de l'acmé, du sommet, la République. Il faut avoir lu une fois la République de Platon. Ça fait partie, voyez, d'une certaine éducation philosophique. Pendant les vacances, quand on a un tout petit peu de temps, on lit la République de Platon. Il ne faut pas le lire comme un roman. Hein. Il faut le lire en essayant de comprendre. Un roman, on n'a pas besoin de le comprendre. Et moins on le comprend, plus c'est dramatique. Alors, c'est lire la République de Platon. Et puis, un livre critique, le Parménide. Alors, Platon. Il semble que jusqu'à Platon, aucun terme propre n'ait été élaboré par les philosophes pour désigner la qualité, considérée en elle-même. Et le langage est un signe. Quand on regarde les pré-socratiques, c'est intéressant de voir que le mot qualité n'est pas présent. D'une façon abstraite. Il n'en éprouvait pas le besoin. C'est Platon qui introduit le terme poiotes, forgé à partir de poionti. Vous voyez, c'est intéressant de voir ces deux expressions au point de vue Platon et pour la philosophie de Platon. Le poionti. Souligne peut-être cette qualité, poiotes, est-elle pour toi un nom insolite en même temps qu'incompréhensible dans sa généralité globale. C'est intéressant de voir que Platon attribue comme ça, c'est dans le tête-tête 182a, le poion chez Platon demeure interrogatif, voire Phédon 78b. Donc, Platon interroge en disant peut-être que tu comprends pas ce que ça veut dire que la qualité. C'est plein d'ironie aussi. Hein. Parce que Platon est très ironique. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il se demande si celui à qui il parle comprend ce que c'est que la qualité. Chez un commerçant, vous pouvez peut-être de temps en temps lui poser « Est-ce que vous savez ce que c'est que la qualité ?» Vous vendez beaucoup de choses, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la qualité. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la qualité. Je crois que l'interrogation de Platon reste quelque chose d'intéressant. Peut-être cette qualité est-elle pour toi un nom insolite, en même temps qu'incompréhensible dans sa généralité globale. C'est pour traduire ce mot poiotes que Cicéron, plus tard, hein, beaucoup plus tard, c'est pas du temps de Platon, mais Cicéron a cet immense intérêt qui fait passer les termes de philosophie grecque au latin. C'est toujours intéressant, ça. Oui. Cicéron, il y a Descartes. Descartes qui fait passer les termes scolastiques dans la langue vulgaire, français. Oui, il y a des charnières comme ça. Alors Cicéron, c'est l'orateur, mais constamment il fait passer un terme grec dans un terme latin, parce que c'est un latin. Et Descartes se sert de la scolastique latine pour la traduire en français. Mais c'est pour ça que Descartes a joué un rôle si important. Et c'est pour ça que Cicéron a joué un rôle si important. Et vous savez, ceux qui ont fait du latin ont sué sur du Cicéron. Et ils l'aiment énormément. Parce que justement, ils n'ont rien compris à Cicéron. Alors, ils ont eu des mauvaises notes à cause de Cicéron. Alors Cicéron est attaché à des mauvaises notes. C'est pour traduire ce mot poietes que Cicéron forgera le mot latin qualitas. Qualitas. Il apparaît avec Cicéron. En s'excusant à son tour d'utiliser ce terme inouï, dit-il. La qualité, c'est inouï. C'est merveilleux. Première fois où qualitas apparaît. Transposition d'un terme grec, non point courant, mais purement philosophique. De voir que ce terme était considéré comme purement philosophique. Aujourd'hui, la qualité, hein, tout le monde s'en sert. Même un commerçant, sans savoir ce que c'est. Tandis que là, chez Cicéron, comme chez Platon, on voit l'apparition, la naissance de ce terme. Ça, c'est intéressant, parce que pour nous, qualité quand même. Platon n'a pas seulement forgé le mot poietes. Il a élaboré toute une philosophie de la qualité vertu. Arrêté. Dans le Cratyle, il explique à sa manière la signification du mot arrêté. Ce mot, dit-il, signifie d'abord l'aisance de la marche. Hein, vous n'auriez pas trouvé ça. Il a une marche subtile. Il y a des gens qui ont des marches lourdes. Oh. Vous savez, quand ils passent dans le chose, on a l'impression que tout va écraser, tout va tomber, tout leur corps. C'est pas très qualitatif. C'est un peu quantitatif. Il y a 100 kilos derrière. Alors la qualité est évidemment entièrement immergée. Oui, c'est intéressant de voir que ça dans le Cratyle. Cratyle 415, CD. Ce mot signifie arrêter. C'est d'abord l'aisance de la marche. Puis le cours. Toujours libre de l'âme bonne. La course. C'est ce qui coule toujours. Aéréon. C'est amusant. Arrêter, c'est aéréon, ce qui coule toujours. Et quand ça coule, ben c'est pas statique. Donc c'est pas lourd. Ça coule. Ça court. La marche aisée. Vous voyez donc la qualité arrêtée est liée d'abord au corps subtil. Un corps qui n'est pas uniquement un peu aérien. Il y a cette idée-là. Sans gêne et sans obstacle, qui a été, semble-t-il, qualifié de ce nom. Il est juste de l'appeler aéreiten. Mais peut-être l'auteur veut-il dire aréten, préférable, pour indiquer que cette disposition exis est préférable entre toutes. La contraction a donné le mot arrêté. C'est du Platon, ça. C'est Platon qui fait. C'est le Cratyle, vous savez bien, c'est un livre extrêmement intéressant pour ceux qui savent un peu le grec. Parce que il est philologue, là. Il montre la naissance des termes philosophiques. C'est très moderne. La seule différence, c'est que pour Cratyle, c'est un dialogue, ce n'est pas encore de la philosophie. C'est une disposition à la philosophie. C'est un signe. Que pour les modernes, c'est la philosophie. Mais essayez de voir d'où ça vient. Alors voyez, vous avez déjà deux termes. Vous avez arrêté, poietes. La qualité, arrêté, c'est telle qualité. C'est la vertu. Et la vertu apparaît en premier lieu C'est ça qui est très intéressant. Apparaît en premier lieu comme l'aisance de la marche. Tout ça admirable, moi. Que c'est les vertus ont d'abord été vues du côté du corps. Philosophie du corps. Les Grecs n'avaient pas besoin d'avoir une philosophie du corps, parce que le corps était toujours présent. Nous, on est très abstrait. Alors on a besoin de revenir au corps. Ça, c'est un lieu très intéressant pour ça. Très intéressant de voir que le mot arrêter regarde d'abord la physionomie de quelqu'un. Oui, la physionomie, l'aisance de la marche. Vous reconnaissez au bout du couloir si c'est un tel qui marche. Oui, oh oui, tout craque. Au contraire, la marche de quelqu'un d'autre. Mais ça fait partie des proclamations de chapitre. Il marche comme un hippopotame. Puis au bout de l'année du noviciat, ah, sa marche a complètement changé. Le noviciat a donné une marche aérienne. On dira, n'ayez pas trop, ne vous envolez pas trop vite. Nous voyons donc dans ce passage que Platon se sert du mot exis pour définir la vertu. Vous avez donc toute une série de mots déjà. C'est ça qui a impressionné Aristote. C'est que la qualité est tout de suite diverse. Vous avez poietès, vous avez arrêté, vous avez exis. Poietès, qualité. Arrêté, vertu, aisance du corps et de la marche. Exis, c'est l'habitus. C'est la disposition. C'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est un état. C'est une qualité. Donc, en précisant que arrêter, c'est exis, la plus excellente. Platon, en effet, emploie le terme exis, et il est sans doute le premier à le faire. Non seulement au sens d'avoir, de possession, mais au sens de disposition de l'âme, d'état de l'âme, exis. Exis, le terme grec exis, qu'Aristote reprendra. État. Exis peut aussi exprimer chez lui la manière d'être du bien, au-delà de la science et de la vérité. Il est évident que toute la philosophie de Platon est une philosophie des formes idéales. Et cette philosophie des formes idéales est d'une certaine manière une philosophie de la qualité. Peut-on encore distinguer chez lui ousia de la véritable qualité? Ça, c'est une grande question. Est-ce que pour Platon, ousia, substance, est-ce que ça dit quelque chose de plus profond que qualité? J'en suis pas sûr. Et c'est là où vous pouvez dire que la philosophie de Platon reste à un niveau de la qualité. C'est une philosophie des vertus, spécialement de la justice, de la prudence, de la sagesse, qui est la seule science parfaite, la science des formes idéales, du bien en soi, de la vérité parfaite. C'est une philosophie de la lumière, du visible et de l'invisible. Cette philosophie est tout orientée vers la contemplation, qui lui donne son sens ultime. Beau et bien s'y trouvent intimement liés, ce qui montre bien que la qualité domine toute cette philosophie. Une philosophie terriblement aristocratique. Je crois que la philosophie de Platon, c'est une philosophie aristocratique. Platon est un aristocrate. C'est un aristocrate, Platon. Il a dans ses ancêtres des empereurs. Il a des oncles qui sont très, très enfoncés dans la politique. Il a un sens étonnant de l'art, Platon. Extraordinaire. Il a un sens de la poésie. C'est le grand philosophe esthéticien, vous voyez. C'est un esthète, Platon. C'est pour ça que ça se lit si facilement. C'est très très agréable, Platon. Et la philosophie française est restée platonicienne. Et la philosophie européenne est restée platonicienne. À tel point que Heidegger n'hésite pas de dire que la philosophie occidentale est une glose de Platon. J'ai dit ça pour que vous compreniez l'importance de la philosophie de la qualité. Mais c'est une porte. Qu'est-ce que c'est que la qualité? La philosophie d'Aristote est la première à analyser explicitement ce qu'est la qualité. C'est la différence avec Platon. Platon décrit la qualité et il décrit les diverses qualités en étant étonnant, en s'étonnant de ce mot qui va en quelque sorte englober diverses qualités. Lexis, l'arrêté, ce sont des qualités. Vous voyez, on est passé de mots particuliers, arrêté, l'aisance dans la course. Il y a des gens qui jouent d'une façon sportive, d'une façon très élégante. Il y a des gens au football qui gagnent à cause du poids. Et d'autres qui gagnent à cause de la qualité de leur jeu. Vous voyez tout de suite. Hein. Tout de suite, ça se voit tout de suite. Ça se sent tout de suite. Bon, il y a arrêté, il y a exis. Puis il y a un mot nouveau, poiétesse, qui englobe toutes les dispositions, toutes les qualités. Et ce mot apparaît. Vous voyez, une sorte d'induction au niveau qualitatif dans Platon. Une sorte d'induction. On passe de qualité particulière à une qualité globale. Et pour cette qualité globale, il n'y avait pas de mot. Et Platon invente un mot, poiétesse. Et Cicéron fait la même chose au point de vue latin. Alors, la philosophie d'Aristote, dans ce site particulier, c'est qu'elle se pose la question, qu'est-ce que c'est que la qualité? Le tiesti, qu'est-ce que c'est que la qualité? C'est pour ça qu'il va plus loin que Platon, dans l'ordre de la qualité. Mais la qualité, pour lui, n'est qu'un mode particulier de l'être. La philosophie d'Aristote est la philosophie de l'être. Mais la qualité joue un rôle très très important. Selon lui, la qualité doit être étudiée en premier lieu dans les catégories. Et c'est dans les catégories et dans la philosophie première que nous pouvons saisir ce qu'est la qualité. Dans les catégories, Aristote exprime ce qu'est la qualité comme catégorie, c'est-à-dire comme attribution. Il en énumère ensuite les propriétés. J'appelle qualité poiétès. Donc tout de suite, poiétès. Ce en vertu de quoi on est dit tel, poion. La qualité qualifie. Vous êtes tous d'accord. Cherchez dans le dictionnaire qu'est-ce que c'est que d'être qualifié. Un ouvrier qualifié. Qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier qualifié? C'est un ouvrier qui a des qualités qui viennent faire que son travail n'est pas n'importe quel travail. Il y a le travailleur et puis il y a le travailleur qualifié. Alors qu'est-ce que c'est que travailleur qualifié. C'est à partir de ce travail, de ce travailleur qualifié, que j'ai l'expérience de la qualité. Et à partir de ce travail qualifié, je vais abstraire qualité. blanc, blancheur. C'est important de saisir ça. C'est important de saisir que la qualité va jouer ce rôle extrêmement important de passer du concret à l'abstrait. C'est peut-être même un des caractères tout à fait particuliers que nous verrons. Et soulignez-le, parce que Aristote le souligne. C'est intéressant de voir ça. Il souligne ça dans les catégories. J'appelle qualité, poiétès, ce en vertu de quoi on dit que quelqu'un est tel, poion. L'abstrait qualité est manifesté par le concret. Ce qui est attribué est manifesté par ce qui exerce cette attribution. N'est-ce pas la manière la plus directe de connaître la qualité? Puisqu'on expérimente seulement le concret qualifié, d'où l'on peut induire une induction très simple et une induction très radicale, la forme abstraite, la qualité. N'est-ce pas là, comme une première induction qui fonde l'attribution logique, celle que suppose notre langage? Le passage de l'expérience au langage. Problème très très actuel, hein? Eh bien, c'est le domaine de la qualité. Si vous ne savez pas ce que c'est que la qualité, vous ne comprendrez jamais ça. Et donc, vous voyez comme c'est intéressant, parce que c'est peut-être là où on saisit génétique, au plan génétique, le premier moment d'induction. Sans analyser ce dire exprimant la qualité, le philosophe ajoute aussitôt « La qualité est au nombre de ces termes qui se prennent en plusieurs sens. » C'est donc la qualité qui est aussi le premier lieu où je saisis l'analogie. Pas étonnant, hein, que pour Platon, il demeure dans la qualité. C'est dit dans Aristote, dans les catégories. La qualité est au nombre de ces termes qui se prennent en plusieurs sens, pour la cause. Cette affirmation est très significative. La qualité implique immédiatement une diversité de significations. Voyez le double mouvement, très curieux. Platon est impressionné par le fait qu'il y a divers noms qui signifient tous quelque chose de commun, d'où le terme qualité qui sera global. Aristote part de ce terme commun pour voir qu'il se diversifie tout de suite. Vous avez donc les deux mouvements. Et ça, c'est intéressant de bien noter ça. Et essayer de comprendre le point de vue génial de Platon, le point de vue génial d'Aristote. C'est peut-être, voyez, en regardant la manière différente dont l'un et l'autre regardent la qualité, qu'on saisit le mieux ce qu'il y a de particulier dans le génie de Platon et le génie d'Aristote. Mais faites comme ça pour comprendre, hein. La diversité des termes pour la qualité. D'où on va inventer un nouveau terme, poiétès. C'est le terme global, il le dit lui-même, donc universel, qui unit cela. Aristote, qui vient après Platon, donc le terme global est inventé. Il parle de qualité tout de suite, poiétès. Et poionti, l'ouvrier qualifié. Et partant de là, il voit tout de suite la diversité. Oui, le double mouvement. Ça signifie quelque chose. Je signale simplement ça, parce que je crois que c'est quelque chose qui est très intéressant pour saisir le génie de l'un et de l'autre. Cette affirmation d'Aristote, la qualité est au nombre des termes qui se prennent en plusieurs sens. Donc, nous montre que la qualité, tout de suite, se diversifie. La qualité comme qualité n'existe pas. Qu'est-ce qui existe ? Telle qualité. La substance comme substance existe. C'est curieux, hein ? Vous voyez tout de suite la diversité. Elle ne peut s'abstraire de cette diversité, car elle est en elle-même quelque chose d'ultime. La qualité en elle-même ne peut plus être formalisée, mais elle se présente à nous, c'est un fait, c'est une grande diversité. Aristote va exposer les principales significations de la qualité. Tout de suite, alors il va nous présenter divers aspects de la qualité, ce qu'on verra la fois prochaine. Ce qui est très intéressant parce que saint Thomas